chronique de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi d'écouter sur Canal Académie Jacques Delarosière de l'Académie des sciences morales et politiques dans sa chronique « Économie et finances ». Il va nous entretenir d'un sujet trop peu traité, moins abordé en tout cas que la dette ou la crise de l'euro, le déficit de la balance des paiements de la France. Bonjour Monsieur.
Bonjour chère Madame Renard.
Pourquoi avez-vous souhaité développer particulièrement cette question ?
Parce que on parle beaucoup du déficit budgétaire, on parle assez rarement du déficit de la balance des paiements, et en particulier du déficit de ce qu'on appelle la balance des paiements courants, c'est-à-dire des opérations qui touchent les marchandises, le commerce, les services, les transferts financiers, mais pas les mouvements de capitaux au sens plus large du terme. Alors, c'est un sujet que j'ai voulu traiter ou évoquer parce que il est important. Il faut comprendre que cette balance qui regroupe les opérations, soit au crédit, soit au débit, sur les marchandises et les services et les transferts financiers, englobe en quelque sorte la relation économique fondamentale entre le pays et l'extérieur. Alors, si vous avez un pays qui, comme le nôtre, malheureusement, présente un déficit un peu systématique, persistant de cette balance des paiements courants, cela peut être le symptôme d'un déséquilibre économique plus général. En effet, si un pays importe systématiquement plus qu'il ne peut exporter, cela est en général le signe d'une faiblesse dans la compétitivité de ce pays. Et c'est aussi peut-être le signe qu'il y a trop de demandes intérieures qui absorbent trop de production et qui n'en laissent pas assez à l'exportation. Le fait d'importer systématiquement plus que l'on exporte, il faut le comprendre, ne favorise pas l'emploi. Les produits importés sont des heures de travail que les pays exportateurs nous adressent, mais qui ne génèrent aucun travail, aucun emploi en France. Alors que si nous étions davantage exportateurs, c'est nous qui ferions travailler la population française pour cette production exportée. On dit que la balance des paiements contribue soit d'une manière positive, soit d'une manière négative, et malheureusement pour nous, c'est d'une manière négative, à l'emploi et en ce qui concerne la France, au chômage. Et enfin, la persistance d'un déficit de balance des paiements courants entraîne, par définition même, l'accumulation d'un endettement extérieur. En effet, le surplus de produits et de services importés par rapport à ce qu'on peut exporter doit être financé. Et il est financé par des crédits extérieurs qui s'accumulent et augmentent la dette générale de notre pays. Voilà pourquoi j'ai voulu évoquer un peu ce sujet.
Alors, quelle est l'évolution de cette balance depuis quelques années ?
Alors, cette évolution n'est pas bonne. En 2005, ce n'est pas si ancien que cela, il y a 7 ans, la France connaissait un léger excédent de sa balance des paiements courants. C'était un peu moins de 1% de son produit intérieur brut. Aujourd'hui, le déficit courant et de 2% du PIB, donc on est passé d'un surplus de 0,5% à un déficit de 2%, ce qui représente à peu près 47 milliards d'euros pour une année.
C'est important,
oui,
un chiffre important.
C'est important parce que si on décompose un peu ce chiffre de 47 milliards, ce chiffre de 2%, on voit des choses qui sont inquiétantes. Je vous ai dit que la balance des paiements regroupait différentes catégories d'opérations. Alors, si vous prenez le solde des revenus de capitaux que nous avons investis à l'étranger et que des étrangers ont investis chez nous, il y a un solde qui est en l'occurrence positif pour notre pays, assez largement positif, il représente plus 3%, c'est un solde excédentaire. Si vous prenez les services, c'est-à-dire l'hôtellerie, toute une série de services qui attire des clients étrangers ou au contraire qui attire à l'extérieur des clients français, Vous voyez que le solde est positif, mais faiblement. Ça représente 0,75% d'un point de PIB. Si vous prenez les transferts, par exemple les transferts que font des travailleurs étrangers en France ou immigrés en France et qui réexportent ces capitaux vers l'extérieur, vous voyez que c'est déficitaire, ce qui est connu et assez normal, de 2% du PIB. Et enfin, ce qui peut-être doit davantage nous intéresser, la balance des marchandises, ce qu'on appelle plus communément le solde commercial, il est négatif de 3,75% de PIB. Et si vous ajoutez les plus 3 des revenus de placement, le plus 0,75 des services, et puis le moins 2 des transferts et le moins 3,75 pour le commerce, vous finissez avec une balance déficitaire de 2%. Mais ce qui m'intéresse et ce qui m'inquiète, c'est le moins 3,75%. Ça représente un peu plus de 70 milliards d'euros de déficit, et c'est un chiffre qu'il faut bien comprendre et qui malheureusement témoigne de la faiblesse de nos exportations industrielles. Alors, comment nous comparons-nous à d'autres pays ?
Oui, sommes-nous une exception ?
Sommes-nous une exception ? Alors non, nous ne sommes pas une exception. Une grande partie de ce qu'on appelle l'Europe du Sud est en déficit de balance des paiements courants. Et c'est plutôt l'Europe du Nord, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, qui ont des excédents. Mais en dehors de l'Allemagne, qui a depuis à peu près 2004-2005 un excédent de balance des paiements courants de l'ordre de 5,5 à 6%, plutôt 6 maintenant, de PIB, face à nos moins 2, hein, l'écart est considérable. En dehors de l'Allemagne, dont on connaît très bien la situation de très forte exportation, notamment pour les biens d'équipement et un certain nombre de produits industriels, si vous prenez le cas de deux pays du Sud, que nous considérons souvent comme des pays très déficitaires, nous voyons que leur situation est en train, du point de vue de la balance des paiements courants, et plus particulièrement de la balance commerciale, leur situation est en train de s'améliorer. Je donne juste quelques chiffres pour ne pas appesantir les auditeurs. L'Espagne avait en 2008 un déficit de sa balance des paiements courants de plus de 10,5% de son PIB, ce qui est considérable. Si vous faites des comparaisons internationales, quand on est autour de 2, c'est déjà pas bon signe. Donc ils avaient 10,6% de déficit. Aujourd'hui, le dernier chiffre que j'ai relevé, ils sont à un petit peu plus de 2,5, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle un ajustement qui a amélioré leur balance des paiements de près de 8 points en l'espace de 3 ans. L'Italie a amélioré sa balance des paiements courants de 2 points de PIB entre 2011 et 2012, c'est-à-dire plus récemment. Elle a maintenant un déficit qui est à peu près 1% du PIB contre nos 2% à nous. Et en France, contrairement à ce qui se passe en Espagne et en Italie, on ne voit aucune amélioration depuis quelques années. J'ai ici la courbe. Elle est malheureusement, l'encéphalogramme est plat, il oscille autour de 0 à moins 2% de manière constante.
Depuis quand ?
Depuis 2002.
2002, donc ça fait 10 ans.
Eh oui, mais c'est ça qui est perturbant, parce que c'est pas simplement un coup de vent conjoncturel, c'est quelque chose qui doit être analysé comme étant plus important. Et c'est pour ça que j'ai voulu en dire un mot aujourd'hui.
Alors justement, que révèle un tel déficit, c'est-à-dire quelle déficience dans notre pays ?
Eh bien, il révèle des déficiences d'autant plus importantes que, comme je l'ai dit il y a un instant, c'est essentiellement la balance marchandises, celle des produits manufacturés, qui est responsable de ce chiffre, même plus que responsable, puisqu'on a un déficit de 3,75% du PIB pour un déficit global courant de 2%. Alors, on dit souvent, pour expliquer ce phénomène, que c'est la faute de la conjoncture extérieure. Et la conjoncture extérieure, c'est la situation économique des pays extérieurs, ceux qui peuvent importer des produits français, et donc cette économie n'étant pas très prospère, n'étant pas très porteuse, comme on dit, il se fait que nous avons plus de mal à exportée, et ceci est en effet un peu le contexte depuis quelques années. Mais je ne suis pas du tout impressionné par cet argument. Ces circonstances ont aussi atteint l'Allemagne, qui, comme je l'ai dit, conserve et augmente d'ailleurs son excédent courant, qui est aujourd'hui de l'ordre de 6%, depuis 2003. Et donc, ça fait 10 ans que les Allemands connaissent les mêmes tribulations conjoncturelles que nous, quelquefois une bonne année, quelquefois de mauvaises années, plutôt des mauvaises années récemment, mais ils dégagent un solde courant très positif, qui est à peu près de 180 milliards d'euros, contre, qui est essentiellement d'ailleurs composé de marchandises. Le solde courant, c'est le même que le solde des marchandises. Et donc, je rappelle que nous avons un déficit marchandises de 70 milliards, et les Allemands, un excédent marchandises de 170 milliards, c'est-à-dire 100 milliards de plus. C'est donc une très grosse différence qui est révélatrice. L'Espagne et l'Italie, dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils amélioraient leur compte extérieur, ils vont maintenant vers l'équilibre courant, ont eu aussi les mêmes problèmes. Et ils en ont d'ailleurs eu d'autres, que nous n'avons pas eu au même degré. En Espagne, il y a eu une énorme bulle immobilière, comme vous le savez, pendant un certain nombre d'années, qui a énormément absorbé du pouvoir d'achat local et qui ne générait que très peu d'exportations. Alors, si je dis cela, je note aussi que notre endettement extérieur continue de s'accroître. Il n'a pas atteint des niveaux inquiétants, mais il se situe aujourd'hui à un peu plus de 5200 milliards d'euros, ce qui représente tout de même 200% du PIB, deux fois le produit intérieur brut français, c'est un peu le même pourcentage qu'ont les Américains. Et en termes nets, et il faut raisonner en termes nets, c'est-à-dire qu'il faut réduire cet endettement extérieur que je viens d'évaluer à 5200 milliards du montant de nos avoirs extérieurs, car nous possédons aussi des avoirs à l'extérieur. Et quand on fait la soustraction, nous finissons avec un déficit qui est de l'ordre de 450 milliards, un déficit alors en capital, qui représente à peu près un peu moins de 20% du PIB. C'est un ordre de grandeur qu'il faut commencer à surveiller, même si aux États-Unis, il est à peu près du même ordre. Et donc, la question que vous posiez est particulièrement pertinente, c'est pourquoi est-ce que nous avons un déficit, notamment un déficit marchandises, si persistant. Alors, les raisons de cette situation, je crois, tiennent essentiellement à l'insuffisance de notre compétitivité. La faute n'est pas à la conjoncture, comme on a trop tendance à le dire en France. La cause de cette insuffisance, c'est essentiellement des causes structurelles qui sont bien connues. J'en cite quelques-unes. Il y a trop de charges sociales qui sont financées par le travail, ce qui fait que les entreprises sont obligées de facturer. Lorsqu'elles exportent, comme lorsqu'elles vendent d'ailleurs sur le marché intérieur, elles sont obligées de facturer ces charges employeurs et ces charges employés qui permettent de financer, et encore en partie seulement, la sécurité sociale. Quand vous faites la comparaison, je l'ai faite un jour chez vous, à ce même micro, entre la France et l'Allemagne, on voit que ceci est un handicap pour les exportations françaises. On peut citer aussi la durée du travail. Les 35 heures n'ont certainement pas aidé à la compétitivité de notre travail. Les Allemands travaillent beaucoup plus longuement que nous. On peut citer aussi l'inflexibilité ou la trop faible flexibilité du fonctionnement du marché du travail. En Allemagne, où les syndicats sont d'ailleurs beaucoup plus intégrés aux décisions d'entreprise, quand une entreprise a du mal, à cause de la conjoncture, que ce soit à l'export ou sur le marché intérieur, eh bien, elle peut faire du chômage technique, reprendre l'activité quand ça va mieux, etc. Elle a une flexibilité au niveau de l'entreprise qui fait qu'elle n'est pas obligée de fermer et d'avoir des conséquences très graves si elle doit à tout prix maintenir le cadre au travail, si vous voulez, qui caractérise les opérations en beau temps. Et vous avez aussi, chose que je souligne toujours, c'est le poids excessif des prélèvements publics. Je regardais juste avant de venir aujourd'hui à votre émission les statistiques de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, la France consacre 56% de son PIB chaque année à la dépense publique. En Allemagne, c'est 48%. Qui finance cette différence entre 48 et 56? C'est 8% de PIB de différence. Ben, ce sont les contribuables. Et dans les contribuables, il y a les entreprises. Et donc, les entreprises sont pénalisées par cette lourdeur de la dépense publique. On dit que c'est un phénomène européen, que l'Allemagne est un cas à part. C'est pas du tout vrai. J'ai regardé la moyenne pondéreuse européenne, elle est de 50%. Et nous, on est à 56, et les Allemands à 48. Donc, ce n'est pas vrai de dire que l'Allemagne est une exception. C'est nous l'exception. Nous sommes le champion des prélèvements obligatoires, pratiquement le champion numéro un des pays de l'OCDE. Et donc, je crois qu'il faut s'occuper davantage de ce problème du déficit extérieur français. On peut dire 2% pour la balance courante, c'est pas énorme, mais 3,75% pour la balance commerciale, c'est beaucoup, et c'est beaucoup d'emplois perdus. Parce que dans ces 3,75%, il y a deux éléments. Il y a la partie qu'on n'a pas exportée, mais il y a aussi la partie qu'on a importée de l'étranger, et qui fait que nous perdons des emplois, tant à l'import, si je puis dire, puisque c'est de l'emploi que nous donnons, des gens qui exportent chez nous, et à l'export, où nous n'exportons pas assez. Et donc, pour toute exportation qui n'a pas eu lieu, pour les raisons que j'ai indiquées, il y a de l'emploi en moins. Et donc, il faut que nous arrivions à comprendre que si nous voulons sortir du problème du chômage, du sous-emploi, ce n'est pas, à mon avis, en créant des emplois dans la fonction publique qui doivent être financés à ce moment-là par davantage de dettes que nous en sortirons. C'est en permettant aux entreprises de profiter du marché mondial. Il y a au moins une chose qui est bonne dans la mondialisation, c'est que c'est un marché, et c'est un marché qui est ascendant, parce que la croissance des pays émergents continue d'être forte, même si elle est un peu tempérée ces temps-ci. Et donc il faut essayer d'utiliser les occasions de ce marché mondial pour exporter davantage. Et pour ça, il y a quelques verrous, ceux que j'indiquais, la durée du travail, le coût du travail, et aussi, j'aurais pu ajouter la formation professionnelle, les liens entre les petites moyennes entreprises et les grandes, les accords de sous-traitance et tout ça. Il y a toutes ces choses-là qui sont des choses techniques, précises, qu'il faut traiter, pas seulement évoquer, mais traiter pour les résoudre. Ce n'est pas du tout de l'austérité, ce dont je parle. Ce n'est pas de l'austérité. C'est au contraire, c'est de la contre-austérité. C'est de la création d'emplois, et il n'y a rien qui coûte, si je puis dire, dans ce que je viens de dire, fondamentalement. Le fait de donner un peu plus de flexibilité aux entreprises, le fait de transférer des charges sociales vers l'impôt général et de le sortir de la fiche de paye, c'est pas des choses qui coûtent. Ce sont des choses qui sont orientées vers l'emploi nouveau. Et malheureusement, je pense que nous vivons dans un pays où les structures sont très rigides, où on s'intéresse moins à la création d'emplois nouveaux, parce que la création d'emplois nouveaux, ça n'intéresse pas tellement les gens qui, comment dirais-je, sont vos clients. Ils sont pas encore les clients, les malheureux. Ils sont pas employés. Et donc, ce que je voudrais, c'est qu'on s'occupe davantage de l'avenir, c'est-à-dire de nos enfants, de nos petits-enfants, et peut-être un tout petit peu moins de ceux qui ont des positions acquises. Alors, c'est un langage, vous me direz, un peu révolutionnaire pour Canal Academy, mais en fait, pas tellement, puisque il y a quelques années, c'est l'Académie des sciences morales et politiques qui a publié un pamphlet que vous avez repris, et qui n'est qu'une illustration de ce que je dis, c'est...
La France s'occupe mal de l'avenir de sa jeunesse.
Voilà, vous m'avez exactement retiré les mots de la bouche. C'est le sujet.
Merci Jacques de La Rosière, et à bientôt pour une autre chronique Économie et Finances.
Merci infiniment.